Eh bien, bonsoir à chacune et chacun pour cette dernière soirée de l'année, en fait, autour de ce groupe œcuménique biblique avec l'idée de manger les banquets.
Et de boire.
Et de boire. Donc là, pour cette soirée, on a choisi avec Jérôme voilà, des invités surprises dont tu fais partie finalement parce qu'on te pensait à Rome en fait.
Oui.
Donc je regrette pour toi, mais il aurait pu faire cette belle balade. Mais donc, trois textes. Alors il y en a un de l'Apocalypse et puis deux autres textes, c'est des paraboles finalement de l'évangile selon Matthieu, qui sont peut-être pas parmi les plus faciles, qui peuvent sembler un peu menaçantes sur les bords, et qui ne doivent pas l'être, puisque par définition, c'est l'évangile. Qu'évangile, ça veut dire bonne surprise, et pas dernier avertissement avant le jugement. Voilà. Donc, il faut se débrouiller pour trouver dans ces textes, effectivement, l'annonce de l'évangile. Et peut-être qu'effectivement, le premier texte nous y invite quand même, puisque ça parle d'un invité. Moi, je peux vous le lire, puisque ça fait un seul verset. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est vraiment l'annonce de la grâce, peut-être. Hein. C'est vraiment un écho du Cantique des Cantiques, peut-être, où voilà, l'amoureux court après son amoureuse, l'amoureux qui est Dieu court après celle qu'il aime et que nous sommes, collectivement et individuellement, frappe à sa porte et espère qu'on lui ouvrira. Et bon. Alors il frappe à la porte, et ça je crois que voilà, en Christ, si on fait un résumé effectivement de l'évangile du Christ, c'est peut-être ça finalement, c'est le Christ, c'est Dieu qui frappe à notre porte finalement.
Il y a une très belle hymne, bonsoir à tous, une très belle hymne du bréviaire qui s'appelle « Il viendra un soir où on ne l'attend plus ». Et c'est un texte qui me touche beaucoup plus que les autres. Je pense qu'il est de Patrice de la Tour du Pin, parce qu'au moment de, à l'époque du Concile Vatican II, on a refondu tout le répertoire des, qu'on appelle les hymnes. Les hymnes, vous savez, ce sont des compositions liturgiques qui sont indépendantes des psaumes. Les psaumes sont des lectures scripturaires que vous connaissez, souvent d'ailleurs mieux que nous. Et les hymnes, donc, sont des compositions poétiques, lyriques, qui essaie de donner une couleur au temps liturgique. Et celle-là m'a toujours touché beaucoup plus que les autres. Il viendra un soir où on ne l'attend plus, peut-être, etc., ce soir-là. Et c'est vraiment l'ambiance, c'est la scène, c'est la cena, hein. C'est le repas du soir. Alors j'ai plutôt une tendance à être plutôt du soir, donc je suis sensible à la poétique du soir. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, par exemple, hein, restent avec nous quand le soir tombe. Ça m'a toujours touché, l'idée que voilà, la nuit tombe et qu'on invite celui qui est seul. Ça touche à des choses très profondes au fond. Hein. Et ici aussi, moi j'avais jamais vu cette tradition, hein, cette traduction, pardon.
C'est la tombe.
Oui, je prendrai la scène avec lui, ça donne une noblesse. Et puis on voit que le repas dans la tradition biblique, c'est bien autre chose que ce que nous en faisons quelquefois. Je me souviens quand j'étais adolescent, c'était l'apparition des fast-foods, etc. Et donc, il y a toute une frange et toute une génération qui s'émouvait de cette nouvelle manière de consommer, de finalement de manger de manière très individualiste. Chacun se sert dans le frigo, on mange le bout de pizza, etc. Et je ne mesurais pas à quel point, effectivement, cette nouvelle manière de prendre des repas venait un peu profaner une tradition assez sacrée du repas, qui s'était sécularisée. C'est certain que Pour les chrétiens, le repas est moins sacré probablement que dans la tradition juive, mais quand même, ça reste un lieu de cohérence familiale, même quand on mange seul d'ailleurs. Hein, on peut tout à fait manger seul de manière selon un rituel. Et donc le repas est organisé, il y a une cohésion, une cohérence, une composition du repas, presque au sens artistique du mot. Le repas fait la synthèse, c'est un morceau de culture, c'est un morceau de civilisation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, enfin au terme de ce parcours, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu pour ça qu'on avait choisi ce sujet. Il ne s'agit pas juste de l'acte de manger, qui est un acte d'ingestion, d'assimilation, qui est très beau d'ailleurs dans le rite de la communion, c'est très beau, mais il y a tout ce qui est autour, et à la limite, dresser la table, faire les préparatifs, on sait à quel point c'est important, fleurir une table, etc. D'ailleurs, dans nos liturgies, dans nos églises, c'est important ce rapport à la scène. Et voilà, donc l'idée que la rencontre ultime, que la rencontre définitive, eschatologique, soit un repas, c'est quand même fabuleux, quoi. Il y a un très beau morceau d'Olivier Messiaen qui s'appelle « Le banquet céleste ». C'est un morceau de jeunesse, il avait 18 ans, que j'aime beaucoup. Alors, vous connaissez forcément, évidemment, sur les voies célestes. Et j'ai beaucoup snobé ce morceau pendant longtemps, et en fait, je le trouve vraiment très, très beau. Et l'idée du banquet eschatologique, le festin des noces de l'agneau, comme on dit, hein, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, c'est, voilà, pour moi, c'est intéressant que nous avancions vers ça. On avance vers un repas, alors qu'on soit, comment on appelle ça, ceux qui font de... ceux qui ne mangent pas, là. Qu'on fasse de l'anorexie spirituelle ou pas, d'une certaine manière, on avance vers un repas, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir... j'avais oublié qu'on avait retenu ce petit
verset.
Qui est très beau.
Ce petit verset. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'il frappe à la porte. Je trouve qu'il y a vraiment une discrétion, une humilité de Dieu, finalement, de venir quasiment comme un mendiant à la porte. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez touchant, je trouve. Et comment faire autrement? Puisque forcément, il ne peut y avoir d'amour sans sincérité, et c'est à cette sincérité qu'il en appelle. Alors, je ne sais pas si... Voilà, souvent, le banquet messianique, on le voit pour les temps futurs, mais là, on voit bien que c'est du présent, oui. C'est du subjonctif, finalement. Si quelqu'un entend ma voix, on pourrait mettre... chaque fois que quelqu'un entend ma voix, parce que c'est par définition le royaume de Dieu, il est déjà là, puisque tous ces textes finalement parlent du royaume, c'est-à-dire d'un royaume qui est le temps où on est avec Dieu, où Dieu peut agir dans notre être. C'est ça le royaume, et c'est pas bien sûr quelque chose qui est étranger à notre vie de foi présente. Et donc, c'est le présent qui est là, le Christ à la porte et qui frappe humblement. Et qui, voilà, si quelqu'un entend ma voix, donc il frappe avec sa voix, bizarrement. Alors, Ferrex, c'est laissé des sortes d'images viennent un peu, ça fait tout à fait quelque chose de bizarre, mais on comprend que Dieu frappe à la porte de notre être. Avec sa parole, avec le Christ finalement, qui est parole faite chair, mais plus largement, c'est avec tout ce qui peut faire un signe de cette action de Dieu. Donc ça peut être cette voix, ça peut être la voix d'un frère, d'une sœur, ça peut être la voix d'un arbre qu'on voit frappé par le vent. Ça peut être quelque chose qui pour nous fait signe de ce Dieu qui est à notre porte, voilà. Et puis que ce oui à Dieu, ça soit d'abord une ouverture de la porte, je trouve que c'est assez beau aussi, parce que j'entrerai chez lui, il y a comme une Pentecôte finalement, vous voyez, c'est pas Alors c'est vrai, tu parlais de noces. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans le deuxième texte, par exemple. Et c'est une belle image de l'alliance avec Dieu, les noces. Mais c'est ce qu'on retrouve finalement dans cette allusion au Cantique des Cantiques, voilà, l'amoureux qui frappe à la porte. Parler de l'alliance avec Dieu comme de noces, entre un amoureux et une amoureuse, c'est assez beau parce que c'est vraiment basé sur l'amour, sur la sincérité, sur le oui à l'autre, sur cette intimité finalement. Charnelle, c'est vraiment très concrète, très proche, quoi. Mais là, il y a quelque chose comme Dieu qui vient à l'intérieur de notre être, de notre vie, de notre monde. Et ça, c'est la Pentecôte. Alors nous, on parlerait d'esprit, si vous voulez. Mais on peut parler de parole, c'est finalement la même chose. C'est la présence active de Dieu qui rentre dans notre sphère, dans notre quotidien, dans notre chez-nous, quoi. Alors c'est vrai qu'après, il aurait pu dire « je prendrai la scène avec lui, point », quoi. Mais je trouve que cette réciprocité qui est mise, c'est quand même étonnant, parce que c'est complètement inutile. Si ce n'est de dire, c'est incroyable, j'allais dire, proximité de Dieu qui se fait notre semblable, quoi, ouais. Finalement, hein, en Christ.
Notre hôte,
mais...
Toute l'ambiguïté de l'autre.
Qui est hôte de l'autre. Ouais. Mais même aussi, voilà, il y a une sorte de... de mutualité, de même auteur finalement. Et ça, c'est quand même étonnant, et c'est très proche de l'évangile, voilà. c'est très profondément ce que manifeste le Christ.
Alors c'est vrai, oui, mais c'est vrai que la, c'est intéressant parce que je m'aperçois, ça fait 6 ans qu'on fait ce dialogue, qu'on mène ce dialogue. Et donc on doit être, je dois être à ma 48e rencontre. Et je m'aperçois, c'est vrai qu'on a des accents quelquefois légèrement différents. Et je m'aperçois de plus en plus à quel point ce sont des héritages culturels, en fait. Parce que j'ai tendance, en catholique, à voir l'histoire du salut. Et donc avoir le dévoilement quand même si effectivement il se joue au quotidien, mais à le voir dans une rétrospective des temps et de l'histoire, finalement un peu comme dans des cathédrales, hein, avec le vitrail de l'Apocalypse, du jugement, etc. C'est à peine de l'autodérision, hein. Je pense que c'est parce que c'est profond. Et je pense que la tradition protestante est plus sensible, et à juste titre, hein, à mettre l'accent sur évidemment cette valeur-là, mais aussi ce qu'elle a à nous dire. Cette parole, c'est aussi ce soir, hein, c'est aussi ce soir qu'il est invité, etc. Il faut trouver le langage qui permette de tenir les deux. Alors, c'est le langage de l'Apocalypse, d'ailleurs, mais le langage de prédication qui nous permette de faire comprendre que, précisément, la visite de Dieu, la visitation de Dieu, c'est à partir du moment où nous hissons à cette... je ne veux pas être trop volontariste dans mon vocabulaire, mais finalement, on fait de l'ascension demain. L'ascension, c'est quand même l'élévation aussi, où on accepte de ne plus vivre à ras de moquette, mais où on se dit, mais au fond, tout ce dont me parle la Bible, c'est pour moi maintenant. Et je choisis d'en faire un peu le mon récit à moi. De me l'approprier et pas seulement le récit d'un peuple qui m'échappe et qui est grandiose, pas seulement l'Odyssée, quoi, pas seulement une épopée, mais un peu le mode d'emploi de ma vie. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai beaucoup à encore me nourrir de cette manière de prêcher l'évangile.
Mais j'ai l'impression que c'est parce que, si tu veux, dans le catholicisme, on manifeste plus cela, ce présent de l'eschatologie, ouais. C'est-à-dire de la fin des temps, du royaume qui est là, plus dans les sacrements, peut-être que dans la prédication. Et effectivement, quand vous brandissez une rondelle de pain et que vous dites le corps du Christ, nous, c'est, je veux dire, c'est ce que vous dites avec ce geste.
Oui, en fait. Oui, oui.
Alors que nous, on dit oui, bon, bah, c'est des bouts de pain, ça ressemble à des bouts de pain pour la fondue. On dit ouais, enfin bon, prenez-le si ça vous approche de Dieu, si vous. C'est un oui à Dieu, une façon d'ouvrir la porte. Si vous voulez l'exprimer comme ça, exprimez-le comme ça. Mais si vous ne voulez pas communier, ben, y a plein de façons d'ouvrir la porte à Dieu et dire oui. Donc nous, on relativise toujours le sacrement et en disant que voilà, Dieu est tout autre, qu'aucun sacrement, enfin, c'est qu'une pédagogie finalement au service d'un Dieu qui de toute façon est la transcendance ultime, que jamais on enfermera dans un geste. Et c'est à travers la parole qu'on va essayer de dire ça. Et peut-être qu'il faut, peut-être il faudrait que, je ne sais pas, qu'on arrive à saisir, nous dans nos sacrements, moins les banaliser et avoir le respect de cette transcendance, dans le sacrement, et peut-être que dans la parole, ça peut-être que nos gestes pourrait un peu plus rejoindre notre théologie et notre parole. Oui,
mais tous les théologiens catholiques actuels, spécialistes de sacramentaire, diraient ce que tu dis. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on dit le corps du Christ, c'est la parole qui compte. Et cette parole s'incarne dans un geste, parce qu'il faut aussi... Mais on est conscient qu'on ne peut pas fétichiser ou qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans... c'est évident. Alors après, il y a la manière dont on le fait aussi. On pourrait, moi j'y pense toujours. Le geste de l'élévation, c'est dans l'histoire, ça vient, c'est l'époque gothique, c'est le XIIIe siècle, parce que les gens ne voyaient rien et que c'était au fond un peu par anticléricalisme.
C'était l'idée de.
Oui, voilà. Donc c'était l'idée. C'était une requête populaire. C'était l'idée. Il est aussi à nous et on veut le voir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écran géant, il n'y avait pas de... Bon. Et donc, l'idée n'était pas idiote. C'est-à-dire, on veut voir, on veut... Parce qu'au fond, l'incarnation, c'est un Dieu qui se donne à voir. Et ce voir continue à être signifiant au cours de l'histoire. Donc, alors, qu'on en fasse ensuite, qu'on instrumentalise ce voir pour en faire un pouvoir, et pour... pour réaffirmer la différence du clerc dans le pouvoir qu'il a de faire venir Jésus sur l'autel, ça, bien sûr, c'est pervers. Mais l'idée de montrer et d'être vu, pourquoi pas.
Non, mais je trouve que vraiment,
après, mettre dans un soleil baroque et dire rester 3 heures devant à genoux, ça, c'est plus vicieux.
Non, mais il y a quelque chose.
C'est l'adoration.
Non, mais moi je méprise
pas. Il dit mangez-moi quand même, il dit prenez et mangez, il dit pas mettez-moi dans le soleil.
Mais je méprise pas parce que ça rend présent finalement ça rend présent ce futur eschatologique quand même.
Oui,
ça le met dans notre histoire,
oui,
et c'est exactement ce que tu dis. Et ça, c'est quand même, je dirais, une belle pédagogie. C'est quand
tout
même
à fait. Mais je pense qu'à deux, on ferait une vraie messe. On ferait une vraie scène. Mais non, mais c'est tout l'enjeu des 500 ans de la réforme. J'en ai parlé hier soir à l'oratorio. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on s'en sorte. Et on s'en sortira par des gestes qu'on a déjà fait à Noël, d'ailleurs, des gestes communs. Et qui sont acceptés parce qu'ils sont liés à des moments un peu importants, quoi. Voilà.
Mais cela dit, c'est vrai que ça, c'est quand même... Bon, c'est tout à fait, à mon avis, Jésus de mettre... moi avec lui et lui avec moi.
Oui.
Cette fraternité du Christ, finalement. Mais dans la fameuse bénédiction sacerdotale, donc dans le livre des Nombres qui est donné à Moïse, qui la donne à son frère à Aaron, donc le Seigneur, on est dans nos traductions souvent, tourne son visage vers toi et te donne la paix. En fait, dans l'hébreu, c'est le Seigneur lève son visage vers toi et te donne la paix.
Ouais.
Et donc c'est incroyable parce que c'est le Dieu qui se met en dessous de nous finalement.
En contre-plongée.
En dessous de nous. Et c'est vrai que c'est encore, je dirais, c'est vraiment cette descente du Christ en dessous de nous même pour nous porter et nous soulever. Et ça, je trouve que... Alors ça, c'est peut-être plus dans le « je me tiens à la porte », cette sorte de Dieu qui est comme un mendiant, qui se met voilà, à mendier à notre porte. Et ensuite, on entre dans une réciprocité, une sorte de proximité, où finalement, Dieu nous nourrit, et où on nourrit Dieu dans un sens qui est incroyable. Mais enfin, bon, je ne sais pas si... Vous avez des remarques par rapport à cette Apocalypse, ce verset de l'Apocalypse?
Je trouve que c'est... Il y a combien de chapitres dans l'Apocalypse?
22, 23, 24,
oui.
22.
Oui. Comme pour les évangiles à peu près, quoi, oui.
22. Mais alors l'Apocalypse, moi je pense qu'effectivement ça parle du présent.
Oui, donc c'est
ça parle du présent, ça parle pas du temps, particulièrement du temps de Néron, ou ça parle oui. pas particulièrement
de la fin non plus.
De la fin non plus, ça parle de c'est un mode narratif qui parle du présent, de l'irruption de Dieu dans notre histoire, dans notre vie. Dans notre monde, je pense, voilà. Oui. Donc après, c'est les invités dans Matthieu. Parabole des invités à la noce.
Alors, c'est une parabole, c'est drôle, je suis allé voir. C'est après l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Matthieu met un certain nombre de confrontations avec, vous savez, les groupes religieux. Alors ils y passent tous, il y a les chefs des prêtres, il y a les anciens, c'est les presbytres on dirait, enfin, donc il y a les chefs des prêtres, donc les familles, les Cohen comme on disait, hein, les familles sacerdotales, qui étaient une caste, hein. Il y a les anciens du peuple, il y a les pharisiens, il y a les scribes, et le cinquième, c'est pas les docteurs de la loi, ils utilisent, enfin ils sont là aussi. Oui, il y a les Sadducéens qui apparaissent aussi. Mmh. Les Sadducéens étaient proches des milieux sacerdotaux. Hein. C'était le parti,
temps,
oui c'est ça, c'était le parti bourgeois. Enfin, on va pas transposer, mais enfin, un parti, comment on pourrait dire, conservateur. Voilà. Et donc on voit Jésus confronté à tous ces groupes, et c'est dans ces situations de confrontation, parce que Jésus ne juge jamais les individus, ça c'est formidable, il juge les groupes, les partis on dirait aujourd'hui, hein, ou les mouvements, mais il se permet jamais, quand il rencontre une personne, il ne la piétine ou il ne la renvoie, où il nous la condamne, etc. C'est assez fascinant. Hein. C'est toujours des groupes, même deux ou trois, parce que effectivement, dès que les personnes sont en groupe, il y a quand même quelque chose. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a une espèce de dépersonnalisation. La personne n'est plus tout à fait elle-même. Elle abdique sa différence au profit du groupe. Ça, c'est assez horrible. Non mais c'est vrai, moi j'ai toujours été sensible à ça depuis la cour de récré. Non mais il y a des effets de groupe qui sont pervers, et alors, il y a des effets positifs aussi bien sûr, mais il y a des dynamiques de groupe comme on dit. Mais Jésus est sévère avec ces gens qui, parce qu'au fond ce qu'on voit, est-ce que ce qu'on va voir tout de suite, l'évangile ne désigne jamais le bien et le mal, il désigne une attitude qui est l'attitude typiquement pharisienne, hein, de se mettre du bon côté, quoi, d'avoir bonne conscience. Voilà. Et ça, on voit bien que ça menace sans cesse dans le débat public. Inutile de faire un dessin pendant la campagne. Bon, il y a toujours une tendance à se regarder soi-même et à se dire « je ne suis pas si mal, je fais bien, je suis du bon côté, je suis... » Voilà. Or, l'Église, le christianisme, c'est quand même toujours les... C'est jamais le bon groupe, justement. Il y a un peu, voilà, il y a un peu les pauvres types, il y a un peu tout le monde. Hein. Et je suis de plus en plus sensible à ça, en fait. Frères humains, quoi, le côté François Villon, quoi. Il y a aussi les gens, bah, on va les voir, les gens qu'on va chercher au croisement de un peu partout et qui vont remplir la salle de noces. Hein. Voilà, on le lit peut-être, non ?
Oui, oui, oui. Si quelqu'un veut bien nous lire ce...
Si quelqu'un entend ma voix.
Matthieu 22. Ah, merci, oui.
Les invités. Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places où partent les chemins et convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, mauvais et bons. Et la salle de noce fut remplie de convives. Entrés pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noce. « Mon ami, lui dit-il, « comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ?» Celui-ci resta muet. Alors le roi dit au serpent, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. »
Merci.
Merci.
Ça suit juste la parabole des vignerons. Homicide, où vous avez aussi trois fois, c'est-à-dire que le maître s'en va loin, l'homme noble, comme disait Maître Eckhart, il part en voyage et il envoie des serviteurs pour toucher, je sais pas, les fermages, enfin les revenus, et puis par deux fois ils sont massacrés et à la fin il envoie son fils. Et ici c'est pareil, deux fois il envoie des invités et à la fin, deux fois il envoie des serviteurs pour lancer les invitations et puis à la fin il leur dit bah, allez-y invitez tous ceux qui traînent par là et remplissez la salle.
Alors il y a eu une lecture de ce texte un peu historique, c'est ce que je vous disais à propos de l'Apocalypse pour Néron. Il y a des gens qui disent oui, alors bon... Finalement, les invités au début, on invite, le Christ invite par exemple les Juifs, et puis ensuite, eh bien, comme ils refusent, Dieu finalement, par dépit un peu, il se dit, qui je vais inviter, et puis il va chercher n'importe qui, vous voyez, dans les autres nations. Alors c'est vrai que cette lecture, elle est un peu, à mon avis, elle est un peu gênante finalement. Il me semble, d'abord par principe, si vous voulez, l'évangile, il a été écrit, il n'a pas été écrit pour une catégorie de personnes, mais il a été écrit pour le lecteur, et donc on doit lire l'évangile en cherchant en quoi ça nous concerne nous, pas pour dire... si Jésus a pu dire des paroles qui sont purement conjoncturelles pour une époque à un moment donné... Il ne les aurait pas mis dans ce texte qu'est l'Évangile, qui est fait pour au contraire, pour à une époque où ils se rendent compte que l'Évangile est pour tous et qu'il faut partager cette nouvelle largement. Donc, par définition, ce qui est dans les Évangiles, c'est ce qui concerne tout destinataire, hein, pas que pour les Juifs, pas que pour telle catégorie en particulier. Et puis, alors c'est vrai qu'il peut y avoir un passage, par exemple, en disant « je vais détruire leur ville », etc. On pourrait se dire qu'effectivement, ça, c'est conjoncturel, que ça a été rajouté, par exemple, dans les années 70, où effectivement, les Romains ont démoli Jérusalem, ont profané le temple. Alors, ce serait une façon, finalement, de rajouter... dans cette parabole de Jésus, une prophétie qui va s'accomplir. Enfin, c'est écrit après que la prophétie soit accomplie, donc c'est assez facile. Ça, c'est possible parce que on sait que, en particulier, ce verset où il y a marqué il incendia leur ville, fit périr ses assassins, envoya ses troupes. On sait que ça, le verset 7, il n'est pas dans les plus anciens manuscrits. Donc ça, c'est bien possible que ça ait été ajouté après, après les années 70, vous voyez, 70 du premier siècle. Oui, voilà, c'est sympa, les années 1970. Par les communautés chrétiennes de l'époque, en se disant, ben voilà, ce qu'avait annoncé Jésus dans sa parabole, ça se réalise en particulier à ce moment-là, et c'était un peu un argument, si vous voulez, un argument de conviction, finalement, hein, pour convaincre les gens. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'est pas pour autant qu'il faudrait réduire ce texte seulement à ça. Alors, c'est vrai que je crois que ce petit verset, il n'est pas, par exemple, je crois qu'il n'est pas dans la version de Luc, et il n'est pas dans la version de l'Évangile selon Thomas, par exemple. Ce petit verset sur périr les assassins et incendier la ville.
Parce que le reste est dans l'Évangile selon Thomas ?
Cette parabole, elle est dans l'Évangile selon Thomas, et elle est dans Luc aussi.
D'accord.
Je crois. C'est possible que ça ait été comme ça, rajouté après. Hein. Mais ce n'est pas si grave. Alors ensuite, est-ce qu'on peut effectivement lire ça comme s'appliquant aux Juifs et puis l'ouverture aux nations? Je ne crois pas. Parce que si vous voulez, je ne crois pas que ça soit un pis-aller de s'ouvrir aux nations. L'espérance messianique, c'était effectivement bien depuis les grands prophètes que toutes les nations, même depuis la promesse donnée à Abraham, que voilà, l'alliance de Dieu s'ouvrirait à toutes les nations, à tous les peuples, et que c'est ce qui se réaliserait avec le Messie. Donc ça fait aucun doute. C'est pas donc dans la façon de concevoir ce plan, c'était pas un pis-aller, c'était le peuple prêtre, Israël, et à mon avis qui garde cette vocation d'être lumière pour les nations, et puis que les nations s'en emparent. Et c'est effectivement ce qui se réalise. Mais donc à ce moment-là, si on devait voir particulièrement Israël, ce serait plus les serviteurs chargés de dire, ce serait plus ça la vocation d'Israël. Bon, alors ensuite, cette vocation d'Israël, elle est reprise et généralisée dans les apôtres qui sont envoyés, et puis dans chaque chrétien qui est envoyé, recevant l'Esprit, est envoyé comme prophète, chargé de réconcilier chacune et chacun avec son Dieu. Donc, à mon avis, on est, mais comme dans bien souvent, si vous voulez, dans ces paraboles, ou dans, bien souvent dans le texte biblique, on est tous les personnages à la fois. C'est très fréquent, parce que si vous voulez, c'est une typologie, vous voyez ce que je veux dire. C'est une typologie pour dire, l'humain, il a cette vocation d'abord à épouser Dieu, dans une alliance faite d'amour et de réciprocité, il est fait pour aller, être participé à ce banquet messianique comme un invité. Il est fait pour aller appeler les autres. Et puis l'humain, il est aussi celui qui se préoccupe trop de sa petite vie courante. Il est aussi celui qui veut être roi à la place de Dieu, et donc qui tue je dirais, cette dynamique de Dieu à l'intérieur de lui-même. Donc on est tous les personnages, si vous voulez, de cette histoire, à mon avis. Et le jugement de Dieu, mais je dirais la même chose tout à l'heure pour la parabole d'après. Le jugement de Dieu, il traverse chacun de nous pour garder le meilleur et pour nous purifier de ce qui est problématique et souffrance. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, alors, effectivement, cette lecture qui a pu être faite, où on plaque l'histoire sur une parabole, on voit bien, donc c'est une lecture universaliste, on passe de l'élection à l'universalité de toutes les nations, de tous les goy. Moi, ce qui me frappe, c'est que il n'y a pas seulement ce mouvement-là d'ouverture où on prend finalement tout le monde après avoir pris juste les invités une guest list, comme on dit, hein, avec des gens un peu triés sur le volet, select, happy few. C'est incroyable qu'on recourt toujours à des mots anglais pour parler du snobisme, c'est extraordinaire. mais ici, il y a une autre dimension, c'est-à-dire ils prennent tout le monde, mauvais et bon.
Oui, ça c'est formidable. Hein.
Alors mauvais et bon, là c'est plus seulement une lecture, j'ai envie de dire catholique ou universelle. C'est mauvais et bon au sens où, bah, comme tu l'as dit, le jugement il passe en chacun de nous. C'est-à-dire on ne sait pas. Nous on est tenté de dire là il y a les mauvais, là il y a les bons. J'y pensais tout à l'heure parce que vous savez le président des États-Unis était reçu au Saint-Siège, etc. On a envie tout de suite de dire des horreurs, des méchancetés. Et puis on se retient parce qu'on est un peu bien élevé. Bon, et puis à Jérusalem aussi, enfin on se dit, oh là là, tout ça quand même, quelle pitié. Et puis en fait, il ne faut pas trop, parce qu'à un moment, j'ai vu son épouse, excusez-moi de parler de ça, ce n'est pas bien de parler de ça, et son épouse qui faisait bénir un rosaire. C'est assez touchant parce qu'au fond... voilà, qu'est-ce que nous savons, quoi, de ce qui se passe dans la vie des gens, même si ça dure 3 secondes, c'est peut-être les 3 secondes qui sauveront les personnes, enfin, voilà. Et ça, quand même, ça, je pense qu'il faut tenir à ça, quoi. Parce que même si on est rattrapé par notre langue, par notre bouche, les péchés de bouche, comme dit le psalmiste, on s'en cesse, mais de savoir qu'il y a un autre plan, qu'on peut lire la réalité autrement, qu'à travers nos petits persiflages et nos grilles et nos analyses. Et ben ça fait du bien de lire des textes comme ça, surtout après les moments qu'on a traversés. Là. Enfin, je sais pas, peut-être j'ai tendance à être obsédé par ça, mais de voir quand même que là où on est toujours tenté d'invectiver, de juger, de cataloguer, de trier, de savoir qu'il y a autre chose que ça, et de pouvoir l'annoncer, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. C'est quand même ça qui est incroyable. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut vivre cette vie autrement que en se méfiant de l'autre, ou en l'insultant, ou en le jugeant, ou en le condamnant, etc. Ça, c'est quand même... voilà. C'est pour ça que la charité est théologale, d'ailleurs. Alors, vous savez que la charité n'est pas une vertu morale. La bonté est une vertu morale, mais la charité, c'est autre chose. Ça nous vient d'ailleurs, c'est... Ça vient de Dieu, ça retourne à Dieu, et c'est lui qui sait ce qui se passe, quoi. C'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Donc c'est assez beau là que parmi les invités, il y a les mauvais et les bons. C'est les mauvais et les bons selon le jugement du monde, quoi. Parce qu'au fond, ils sont peut-être pas exactement ni complètement mauvais ni tout à fait bons.
Selon le jugement de Dieu, même peut-être.
Oui, peut-être même.
Les invités n'en étaient pas dignes aussi, juste avant, au verset 8. Les invités n'en étaient pas dignes, donc en fait, il a invité même les indignes. Évidemment.
Oui, même le jugement de Dieu, tu as raison.
Évidemment. Et c'est bien pour ça qu'il est à la porte et qu'il frappe. C'est la même chose. Il va. Et que Jésus s'adresse aux pécheurs. Hein. Donc évidemment. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même étonnant, oui. Ça ne correspond pas à notre imaginaire de jugement de Dieu, finalement. Ouais. Alors, il y en a quand même un qui se retrouve dehors.
Oui.
Mais ce qui est rigolo, c'est que, si vous voulez, ça montre bien que le plan de Dieu est en échec, parce que son objectif, c'était de remplir la salle de banquet, finalement. La salle des fêtes. Il y arrive au verset 10. Et puis, badaboum, il va manquer quand même une personne en définitive. Et donc le plan de Dieu est en échec parce que bah, il n'est pas arrivé à ses objectifs finalement. Et ça c'est triste, moi je trouve, par rapport à... C'est pas gentil. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'on reproche à ce bonhomme finalement? C'est que bon, surtout qu'il y a plein de clochards, hein, donc on ne peut pas le critiquer de ne pas avoir une tenue de noces.
Le dress code.
Le dress code, voilà. Bah alors, ce qui semblait quand même, c'est d'après la culture de l'époque, les gens, ils venaient de loin, et puis c'était salissant, et puis ils marchaient à pied, donc ils ne pouvaient pas forcément porter des habits de noces, donc on leur remettait un habit de noces à la porte, finalement, pour que la noce fasse un peu luxe, quoi. Donc on leur remettait un habit de noces, donc lui,
oui,
il a refusé.
Pas la sévérité de ce qui lui arrive quand même.
Donc lui, il refuse finalement de porter l'habit qu'on lui avait offert finalement. Hein. C'est quand même un peu...
Il était timide
peut-être. Et puis, à la limite, voilà, on lui demande des comptes. Hein. On lui dit, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces? Parce qu'il est étonné finalement le maître, puisqu'on distribue un vêtement de noces à l'entrée.
C'est pas écrit, ça, mais c'est pas dit.
Mais c'est vrai que c'était la culture de l'époque.
Oui,
ça
c'est l'implicite un peu du texte. Ouais.
C'est l'implicite du texte qui est écrit à une époque où on savait comment ça se passait, si vous voulez. Alors c'est vrai que pour nous, c'est plus difficile. Mais parce que les gens ne pouvaient pas être en voyage avec tous leurs habits de noces, paraît-il, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, ce qui lui est plutôt reproché, c'est de ne pas répondre, c'est de rester muet peut-être, non?
Mais il y a encore ça dans certains restaurants. Moi, je me souviens d'un restaurant sur l'île Saint-Louis, c'est celui de M. Brialy, où il fallait la veste de rigueur. On dit ça, veste de rigueur. Et effectivement, si on n'a pas la veste, il y avait une espèce de vestiaire où on pouvait se servir. Donc c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'ils ont fait un effort pour... Et donc celui qui passe en force, c'est quand même qu'il a doublement tort. Non seulement il n'a pas le bon look, mais en même temps, on lui fait un petit geste en sa faveur en disant, ben voilà, on te fournit, et en plus il refuse. Donc là, il y a quand même une forme de respect du refus individuel. Et ça, la Bible ne va jamais contre le refus individuel. Hein? C'est pas compelle intrare, comme dit saint Augustin, force-les à entrer. Parce que vous savez que saint Augustin a fait une lecture...
Mais c'est dans la version de Luc, je crois.
Oui, c'est dans la version de Luc. Force-les à entrer, donc hors de l'église, point de salut, il faut que tout le monde soit converti, baptisé à la chaîne, etc. Ici, c'est quand même l'idée qu'il a, par deux fois, au fond... Il a témoigné une sorte de distance un peu... Oui, alors voilà, au fond c'est une manière de respecter le... Parce que sinon on est programmé pour être sauvé, quoi. C'est pas très intéressant. Non mais voilà, c'est toujours le problème. Si tout le monde est sauvé... effectivement, si l'enfer est vide, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si on est uniquement des marionnettes destinées à être sauvées, ça n'honore pas complètement l'image de Dieu en nous, qui est aussi la capacité de s'opposer. Alors, je ne sais pas.
Moi, ce que je crois, c'est que c'est ce qui en chacun refuse finalement. Refuse de jouer le jeu, quoi, finalement. Refuse de se laisser, habiller, refuse d'entrer en dialogue, refuse de répondre, parce que la responsabilité, c'est cette capacité d'accepter cette de répondre. Dieu, on le voit assez souvent dans la Bible, n'est pas du tout contre le fait qu'on lui dise « mais tu me casses les pieds, mais il y en a marre, mais dégage ». On a le droit, en fait. Alors, les plus grands dans la Bible, à commencer par Abraham, en passant par David et en terminant par Jésus-Christ lui-même sur la croix, jouent à ça, finalement. Et donc, il aurait tout à fait le droit de dire, mais écoute, désolé, mais ta robe, elle est pourrie, en plus, elle est bleue et jaune, et moi, j'ai horreur du bleu. Il aurait pu répondre ça. Mais, vous voyez, il y a une sorte de négation, de refus, de porte fermée finalement, de profiter sans jouer le jeu du tout, quoi. De sorte de côté complètement unilatéral. Et ça, c'est vrai que c'est problématique. Et donc moi, je suis d'accord avec Jérôme. Il y a une participation de l'homme au salut, voilà. Mais je crois néanmoins que tout le monde est sauvé. Parce qu'on est tous les personnages. Et donc,
pas dans la conclusion, quand même, qui est très
dure. Elle est très dure, mais elle est pas, il n'y a pas un seul, si vous voulez, une seule personne qui serait 100% pure le dernier sale bonheur. On est tous un peu du premier, c'est-à-dire l'invité légitime qui entre quand même. On est tous un peu le canard boiteux que Dieu finalement arrive à rattraper parce qu'il était quand même un peu en train d'errer au coin des chemins, c'est-à-dire un type qui n'était pas complètement fermé de chez fermé, mais qui était quand même en train d'errer quelque part. Et dans cette errance, problématique un peu parce qu'il y a du mauvais et du bon, eh bien quand même, comme par hasard, comme par un coup, voilà, il finit quand même par se laisser toucher par quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui le fait rentrer. Donc vous voyez, je crois que il y a celui qui rentre en conscience, c'est le premier, première vague. Le deuxième, il rentre presque par hasard, par cette errance, voilà. Les autres, c'est les deuxièmes. Et puis, bon, ben, il y en a quelque chose en nous qui joue quand même pas le jeu, qui va se retrouver dehors. Mais à mon avis, c'est une libération pour nous, parce que cette sorte de fermeture, cette sorte de ce côté parasite, est quelque chose qui nous parasite et qui parasite le meilleur de ce que nous sommes. Et qui nous empêche justement, qui nous garde muets, qui nous garde fermés, qui nous garde, je dirais, sales, pas en forme. Et donc c'est une libération. À mon avis, on ne peut jamais lire une action de Dieu comme étant source de mort. Il faut se débrouiller, même se démerder, pour lire de toute façon toute action de Dieu comme une manifestation de l'Évangile, c'est-à-dire comme une source de vie, une source d'épanouissement, une source de paix, une source de... Parce que, vous voyez, ça, c'est dans, comme le disait Jérôme, c'est quand même plutôt sur la fin de l'Évangile selon Matthieu. Cet Évangile selon Matthieu, il s'ouvre avec ces paroles radicales qui dit que Dieu, il aime même ses ennemis, il bénit ceux qui le persécutent et le maudissent, il fait du bien à ceux qui le maltraitent. Et donc c'est... Alors effectivement, la multitude est appelée.
C'est comme le gros biblique, la multitude est appelée, mais voilà, il y a quelques élus.
Mais peu sont élus.
Le petit reste.
Mais c'est le petit reste de ce qui est en nous l'enfant de Dieu. Donc quand bien même, si vous voulez, il y aurait fort peu à garder de nous, eh bien Dieu se débrouillerait pour le dénicher, pour le libérer de ce qui parasite le meilleur qui est en nous, et puis ce peu, eh bien...
Mais alors, il faut réécrire le tout.
Non, mais c'est marqué comme ça.
Oui, mais c'est vrai que ça change tout. Si on c'est considère que nous ça. Sommes tous les personnages, ça veut dire qu'il y a une partie en nous qui...
Et alors, si vous voulez ça, c'est pas un protestant libéral du XXIe siècle seulement qui dit ça. C'est une lecture traditionnelle de l'écriture qui est comme ça. On le voit par exemple, mais je vous ai déjà donné cet exemple mille fois parce qu'il est typique, mais c'est dans la première lettre de Pierre au chapitre 3, il dit, compare le baptême, cet acte où on est sauvé par Dieu, il le compare au déluge et où Noé et sa famille est sauvée. Donc il compare le baptême individuel de chacun, il compare ça au déluge. Donc on est à la fois et Noé et ses enfants et l'humanité violente. Et le baptême est comme ce déluge qui vient garder le meilleur de l'humanité pour libérer de l'humanité violente. Mais il y aurait mille autres exemples. Les images qui sont données du jugement, très souvent, c'est par exemple une moisson. On sépare le bon grain de l'ivraie, on vanne le blé, et puis ensuite on fait du pain. Ou c'est le minerai qui est mis même l'image, si vous voulez, l'image de, là, il n'y a pas l'image du feu, quoi. On l'a peut-être dans d'autres passages qui semblent menaçants, mais le feu.
Mais s'il y a le feu, il y a la ville qui est réduite en cendres.
Voilà, incendier la ville. Incendier la ville, c'est une image de purification, comme on purifie le minerai. Et ça, ça se retrouve très souvent dans la Bible. Voilà, qu'on est purifié comme de l'or. Donc on prend le minerai et nous sommes un minerai, un mélangeant de la terre et de l'or. Eh bien, le fondeur, il met le minerai dans le creuset, il le passe au feu et il garde l'or et il enlève la terre. Donc autrement dit, ce jugement-là qui garde le meilleur de chacun, ben c'est l'amour, hein, c'est tout. Et voilà, quand on dit Dieu est amour, c'est-à-dire son jugement n'est pas un jugement de sélection des personnes, mais un jugement de purification de chaque personne.
Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est la grande tradition, non seulement des pères de l'Église, mais de l'Église médiévale.
Ben oui.
Les quatre sens de l'Écriture. Mmh. Le cardinal de Lubac a beaucoup écrit là-dessus. Quelquefois, ça pouvait devenir artificiel, si on cherche toujours les quatre sens. Donc, les quatre sens, hein, vous savez, il y a le sens littéral. Les fondamentalistes en restent là. D'ailleurs, c'est toujours le risque de certaines églises évangéliques de rester au sens littéral. Le deuxième sens, c'est le sens allégorique. Le troisième, c'est le sens moral, qu'on appelle tropologique, parce qu'il nous fait changer de... Il nous convertit. Et puis, il y a le sens mystagogique, le quatrième, qui nous introduit dans, dans la vision même de Dieu sur l'histoire. Et alors, il ne faut pas que ça devienne un système, parce que sinon, ça devient quelque chose d'asphyxiant. Mais c'est intéressant de voir que... les gens qui ont lu sérieusement les Écritures pendant 2000 ans n'ont jamais voulu figer le sens littéral. Au contraire, ils ont toujours essayé d'ouvrir, un peu comme les rabbins d'ailleurs, hein, ils ont toujours essayé de montrer, et je pense que l'islam aurait beaucoup, parce que l'islam médiéval a été brillant et donc a connu cette tradition, hein, de l'herméneutique des quatre sens. Et actuellement, ils ont perdu cette voie-là. Ce serait, je pense, intéressant.
Il y a des gens qui le font. Oui,
oui, il y a des gens qui le font, évidemment, bien sûr.
Et donc, pour vous prouver ça, si vous voulez, j'ai mis sur le petit dessin, en fait, ça vient d'une catacombe de Rome, si vous voulez. Mais il faudrait lire, donc, peut-être la parabole d'après, parce que c'est un... vous voyez, il y a la séparation des brebis avec les boucs. Alors le bouc, ben oui, comme dans la parabole qu'on va lire, hein, il met les chèvres, les boucs, il le met à gauche, et la brebis à droite, et on voit le Christ tourner et accueillir la brebis qui est à droite, mais sur les épaules. C'est un bouc qu'il a en fait. Et donc, si vous voulez ce dessin, mais c'est très classique, il y en a d'autres, hein, des bergers comme ça qui portent le bouc de la parabole donc des brebis et des boucs, de la jugement des nations, de Matthieu 25. C'est très fréquent. Et c'est-à-dire que voilà, on se reconnaît bouc, le bouc qui est donc fait pour la perdition, avec la confiance ben, que Dieu sauve le bouc. C'est de dire, voilà, on est à la fois, dans cette parabole, la brebis et le bouc, on est à la fois le juste et le pécheur.
C'est la Sainte Domiti, c'est quelle catacombe ça?
Oui, je crois que c'est Sainte Domiti, oui, effectivement. Oui.
Quelqu'un sait, non sur le... elle est assez connue.
Non, mais enfin, je crois que c'est Domitius. Oui. Mais il y en a d'autres, hein, j'en ai plusieurs
de
dans
bon
mes
pasteur,
collections, ouais. De bons pasteurs avec de bons bergers, séparant la brebis avec les boucs, et avec un bouc sur les épaules, il y en a plein, en fait. Il y en a, c'est un peu un classique, qui vient vraiment dire une exégèse du 3e siècle, peut-être début 4e, qui dit vraiment la grâce de Dieu, et cette lecture... de ces paraboles de jugement où Dieu vient sauver le pécheur, en fait, qui vient, parabole de jugement, qui dit que Dieu vient sauver le pécheur. Mais ce qui est la base de l'évangile, quand même, je veux dire, si on devait résumer l'évangile, à mon avis, c'est ça. Alors effectivement, ça nous choque de dire que Dieu sauve tout le monde, mais si Dieu sauve pas tout en tout le monde, à mon avis, ça devient quelque chose qui est tout à fait acceptable, et qui rend bien compte de l'amour de Dieu, à mon avis, manifesté en Christ. Alors peut-être qu'on peut lire troisième texte, non? Si quelqu'un veut bien lire. Guido.
Un petit frère nourri et abreuvé. Matthieu au chapitre 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ?» Et le roi les répondra, « En vérité, je vous le déclare, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudit au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors, il répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne m'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle.
Donc ça peut sembler menaçant, c'est vrai. Mais c'est une question de logique. Si quelqu'un, effectivement, n'avait jamais fait le moindre bien de toute son existence, il serait à ce moment-là le plus petit, il serait le plus étranger, il serait le plus malade, que le Christ serait le premier à aller visiter, à aller accueillir, à aller nourrir, à aller considérer comme son frère. Et donc, on ne peut pas lire... C'est une question de logique. On ne peut pas considérer que Dieu, du coup, nous abandonnerait. Puisqu'il nous dit que la justice, c'est justement d'aller voir celui qui est malade, celui qui est emprisonné, peut-être dans son péché, si vous voulez. Dans son orgueil, dans son égoïsme, voilà. Et puis aussi autre chose, celui qui a donné une fois un verre d'eau à un petit qui a soif, il se suffit pour être considéré comme juste. Et celui qui une fois n'a pas donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, il est considéré comme pécheur et digne du châtiment éternel. Donc je veux dire, où êtes-vous là-dedans, je veux dire. C'est pas possible. On est tous des deux côtés. Mais c'est pas, je veux dire, ça fait même pas de mystère pour personne. C'est complètement évident, littéralement, si vous voulez. Donc on est tous à la fois le juste et le méchant de la parabole. C'est clair. Et donc c'est une question plutôt de question de quoi justement.
On est brebis et chèvre.
On est brebis et chèvre à la fois. Et donc, on est mi-brebis, mi-chèvre.
Complètement brebis et complètement chèvre. Comme Dieu est complètement homme.
On est complètement brebis et complètement chèvre en même temps, c'est ça. Et donc, le Christ, il va même chercher, effectivement, il va chercher, il vient pour les boucs. Hein. pour les ramener. Mais c'est assez beau parce qu'effectivement, de cette image qu'ont fait les premiers chrétiens d'aller sauver le bouc, c'est sympa parce que ça exprime bien comment nous sommes enfants de Dieu. Même si nous sommes 100% pur bouc, par adoption, Dieu reconnaît en nous une brebis. Vous allez dire, il y a des problèmes avec ses lunettes.
Mais je dirais, les gens spontanément, l'intuition populaire, c'est de comprendre l'expression, parce que forcément on met en lien avec la parabole de la brebis perdue. On ne peut pas s'empêcher de penser, oui. On transpose. Et les gens, par exemple, moi, au cœur de Paris, on reçoit des gens, ils me disent « Ah, mon père, vous savez, je suis la brebis perdue. » Bon, alors je leur dis que moi aussi, et puis bon. Mais maintenant, je leur dirais qu'ils sont des boucs, en fait. Oui,
c'est pire encore.
Mais oui, c'est pire. On ne parle jamais des béliers, en revanche. Mais pour la chèvre, il y a une ambiguïté chèvre-bouc, mais on ne parle pas tellement des béliers. Alors que l'agneau, vous savez, l'agneau, dans l'Apocalypse, c'est le jeune bélier, d'ailleurs, fougueux, etc. Donc il y a bien aussi cette dimension-là. Donc oui, spontanément, je pense qu'au fond, même si moi je suis très frappé, je n'avais jamais fait attention à ça. Donc je découvre, à ma grande honte, mais je pense que spontanément, les gens comprennent cette image. Parce que pour eux, la brebis égarée, c'est quelqu'un, c'est le pécheur, justement.
Ben oui.
Donc c'est celui qui est plutôt à gauche, si j'ose dire. Enfin,
il est à gauche sur l'image, mais il est à droite du...
Oui, mais il est à gauche de Jésus, et puis, enfin dans l'histoire, en tout cas.
Ah oui, c'est le bouc, ça, oui.
Oui, c'est
le pêcheur, oui.
Oui, donc la brebis égarée, il se vit comme un bouc.
Oui, oui.
Donc il ne sera pas étonné de...
Il
ne
sera pas étonné de se trouver sur les épaules du berger, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça, l'image, c'est un mix, effectivement, du berger avec la brebis perdue,
oui.
Et du jugement des nations.
Et alors, du bon pasteur dans l'Ancien Testament. Il y a trois images.
Ah oui, il y a dans Jean 10, le berger, mais sinon, oui. c'est le psaume 22-23, c'est
oui.
Ça, l'Éternel est mon berger, le Seigneur est mon berger.
Donc. Et puis, chez un prophète, c'est chez...
Oui, alors.
Je pense à. Parce que je vais le dire en anglais, c'est très snob parce que je me trompe. C'est He shall feed his flock like a shepherd. C'est dans le Messie. He shall feed his flock. C'est l'air du bon pasteur. Et c'est dans Isaïe, ça. Hein.
Oui.
Il fera paître ses brebis. Il paîtra ses brebis, c'est ça, littéralement. Mais en français, c'est pas très heureux. Comme un bon berger. Donc c'est ça, à mon avis, peut-être même avant les psaumes.
Oui, l'image. Alors c'est vrai que. On dit parfois que le berger, c'est une figure royale, si vous voulez. C'est pas tant l'humilité que ça. C'est une figure royale, le berger, dans l'Ancien Testament. C'est donc assez noble, quand même.
Oui, c'est pas le berger de la crèche. Ça n'a rien à voir, c'est vrai.
Mais même le berger de la crèche, est-ce que c'est tant méprisant que ça, si vous voulez? Peut-être. C'est en tout cas, au point de vue des intégristes de l'époque, des religions, des religions religieuses... Ils n'étaient pas très bons observants, mais c'est très connoté positivement parce qu'il est dans la compassion, il est dans le soin, il est dans l'amour de l'autre, il est dans le... Et donc c'est vraiment le bon roi proche de son peuple, le berger. C'est pas justement le roi terrible. Alors sinon, on nous invite à quoi finalement ? On nous invite... Quoi ? À venir, parce que ces exemples, alors souvent c'est lu par les aumôniers des hôpitaux pour dire voilà, on a le service le plus noble. Non mais je suis d'accord, il faut aller visiter les gens qui sont malades, les prisonniers, aller nourrir ceux qu'on faim. Oui, mais ça c'était les commandements de base, des services qu'on doit à ses proches finalement pour les soins du corps. Il manque un seul... des services traditionnels dans le je dirais la bonne façon de se comporter avec ses proches.
Qui va le trouver?
C'est lequel il manque?
Oui, parce que moi-même je sais pas. Attends. Donc il y a boire, manger, vêtir, visiter.
Je l'ai pas inventé. Hein. Donc il y a 6 des 7 devoirs, il paraît, qui sont classiques.
Oui. Donc il y a visiter le malade et visiter le prisonnier.
Donner à boire.
Il pourrait y avoir guérir, chauffer.
Mais c'est enterrer ses morts.
Ah, enterrer les morts.
Enterrer les morts. Alors c'est vrai que Bon, ça, effectivement, on sait que dans Matthieu, Jésus dit « laisse les morts enterrer les morts ». C'est un verset qui est très choquant, hein, mais qui est fait pour, à mon avis. Je pense qu'il faudrait le lire comme... faut pas considérer que la personne qu'on aime est dans la tombe, si vous voulez. Si, voilà, ce moment-là, c'est vraiment tragique. Il faut la comprendre vivante autrement. Donc... on peut enterrer le corps, mais on n'enterre pas la personne, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est comme ça, moi, que je lis ce verset. Et aussi, donc, voilà, s'occuper des choses sérieuses. C'est-à-dire, bon, il y a une façon, je vais dire, d'enterrer le corps de quelqu'un qu'on aime qui n'est pas enterrer la personne, qui est au contraire honorer la mémoire de la personne et donc son côté spirituel. Enfin, c'est une autre question. Enfin, bref, ça, il ne l'a pas mis. Il parle parce qu'il parle du plus petit d'entre les frères. Et le petit d'entre les frères, ben, ce petit ne meurt pas en fait. Donc on ne risque pas de l'enterrer. Parce que le plus petit d'entre mes frères, si on regarde un peu qu'est-ce que Jésus considère comme son frère, ben, en fait on le connaît ce passage. Il dit mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc à mon avis, c'est soit ça qu'on doit aller visiter quand il est en prison, nourrir quand il a faim, abreuver quand il a soif, soigner quand il est malade, visiter quand il est malade. Oui, c'est-à-dire que le petit frère du Christ, c'est-à-dire c'est le petit, c'est la partie divine de chacun, la personnalité profonde de chacun, j'allais dire, la partie digne d'une créativité unique et irremplaçable qui est dans chaque personne. Donc celle-là, elle existe et elle ne peut pas mourir, à mon avis. C'est pour ça que Jésus a enlevé le soin de l'enterrement, parce que ça risque pas d'arriver avec cette chose-là. Mm-hmm. Mais par contre, on est chargé d'aller abreuver, nourrir. Et ça, finalement, c'est notre rôle de soigner de soigner cette part-là en nous-mêmes et puis dans notre prochain, finalement. Et ça, c'est... Oui, c'est... On soigne la part christique qui est dans l'autre et qui est en nous-mêmes, ou qui est dans le monde aussi, qui est dans l'univers, qui est dans l'humanité, je veux dire. Et donc ça, c'est notre mission aussi. Alors ça peut être comme la mission des serviteurs qui sont envoyés pour aller rechercher aux quatre coins. Ben effectivement, c'est... parce que là, aller chercher les clodos aux quatre coins du truc... On peut le comprendre littéralement au sens moral, puisque Jérôme en parlait. On peut le dire, bah oui, quand il y a quelqu'un qui est en train de perdre sa vie, c'est notre mission de faire quelque chose. Mais plus largement, on peut se dire, bah voilà, il faut aller rechercher la brebis perdue. La brebis perdue, c'est par exemple quelqu'un qui est dans une dépression profonde. Nous-mêmes, quand nous tombons dans une dépression profonde, il faut qu'il y ait un berger qui soit capable de partir à la recherche de cette dimension de la personne qui est souffrante, qui ne peut pas se lever. Et donc, il faut aller l'abreuver, il faut lui donner à manger.
Voilà. Et justement, hier soir, nous avions, enfin, j'y faisais allusion tout à l'heure, Guillaume était là, Michel aussi, une soirée sur la fraternité à Saint-Eustache. En l'honneur de Philippe Néry qui est notre fondateur et donc comme c'est la semaine où on le fête et on a terminé, enfin j'avais choisi des textes et on a terminé par l'Auvergnat de Georges Brassens et toi l'Auvergnat, etc. Lequel Auvergnat d'ailleurs, Marcel Planche, vous savez qu'il était un ami de Brassens, il était normand d'ailleurs, mais par pudeur il transpose, mais c'est le Samaritain au fond, c'est-à-dire celui, parce que l'Auvergnat... Pour les Parisiens des années 50, c'est le bougnat un peu radin. Donc c'est une manière aussi de prendre un cliché et de montrer que ça ne marche pas. Quoi. Et il y a donc toi qui m'as réchauffé, hein, donc qui m'as accueilli. Parce que là, c'est la visite, mais il y a aussi l'accueil, hein, comme on a vu dans la bouquin. Il y a l'accueil, il y a donner à manger. Et puis le troisième, c'est l'étranger. Hein, l'étranger. Toi, l'étranger qui sans façon, etc. C'est très beau d'ailleurs, c'est Jacques Mériane qui est vicaire à Saint-Eustache qui a lu, je lui avais demandé, parce que bon, il a une voix, il a une, voilà, une présence, je pensais que c'était que c'était bien qu'il le dise, et puis entendre le texte autrement qu'avec la mélodie, après un texte de Geneviève Antonios de Gaulle, qui est un peu un texte lourd, chargé, grave, c'était aussi une manière de mettre un peu de chaleur humaine, mais sans vouloir récupérer Brassens, hein, qui reste un anarchiste et un bouffeur de curé. Probablement, moi je le trouve chrétien, mais enfin on va pas forcer les gens à entrer justement. Donc bon, voilà. Mais quand on lit l'Auvergnat, qui est un texte du 54, je crois, c'est Matthieu 25. Hein. Je l'ai pas dit parce que je voulais pas. En plus, j'avais des amis là qui sont justement qui trouvent intéressant qu'on donne un texte sans vouloir tout de suite
tirer la morale,
faire l'explication de texte, et puis dire c'est Matthieu 25. Mais moi je pensais, bien sûr. Et ce qui est formidable dans le texte de Brassens, c'est que précisément, c'est des gens qui ne le savent pas non plus. Un peu comme ici, hein. Quand est-ce que nous t'avons... Et c'est un peu, voilà, heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire que forcément... C'est pas celui qui se regarde faire, comme je disais tout à l'heure. Il y a cette espèce de spontanéité. Ça, c'est quand même magnifique. Les textes de l'Évangile désignent toujours ces personnes-là. J'ai appris qu'à Manchester, là, vous avez peut-être vu hier, il y a deux SDF qui ont sauvé des enfants, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, mais là, c'est vrai que c'est beau, il n'y a pas de calcul. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le bien ou les prières... pour avoir la vie éternelle, parce que ça, on est encore finalement, si on est dans ce calcul-là, on est encore dans l'égocentrisme, on est encore dans le calcul et dans la vénalité. Alors que là, non, c'est une sorte d'abondance du cœur. Il dit, ben, je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif.
Hein. Oui. Comme dans Tartuffe, vous savez, c'est Alexandrin. De... Aux pauvres, à mes yeux, il allait les répandre en parlant de l'argent. Et bien oui, c'est le contraire. C'est le... Ouais. Mais c'est bien. Et au fond, c'est chacun de nous. Parce que nous ne pouvons pas, si on est cohérent avec ce qu'on a dit juste avant, on ne peut pas désigner le Tartuffe. Parce que la tentation, c'est de dire, le Tartuffe, c'est lui, c'est mon voisin. Ah non, justement, on ne sait pas, parce que précisément, peut-être qu'une fois, il avait... voilà, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, voilà, le verre d'eau, c'est peut-être une fois, c'est arrivé, pour 200 verres d'eau refusés. Il y a peut-être eu, voilà, et
une seule fois suffit, parce que du coup, ouais. Il y a eu un éclair... J'allais dire de grâce, de générosité, ouais. Malencontreusement, si je peux dire. Du coup, il y a eu du vivant dans ce cœur. Et ça, c'est plus fort que la mort.
Oui. C'est quand même... vous savez que c'est considéré comme le texte de l'Évangile... Le chapitre 25 de Matthieu, hein, c'est la charte du chrétien. Je suis frappé...
Avec les talents.
Oui, je suis frappé dans l'éducation nationale, parce que comme je suis prof de lettres, il y a toujours des réticences, vous savez, dans les manuels de littérature pour les lycéens. Il y a des réticences à mettre des textes du Nouveau Testament. En même temps, les gens qui font ça... Parce que vous savez, la gare des Michards, c'est un peu fini. Maintenant, il y a pléthore de choses. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, les gens qui font les manuels sont intelligents. Ils ont des réticences parce qu'on baigne dans une culture laïcarde, etc. Mais en même temps, ils sentent qu'ils doivent mettre quand même des textes.
Et, qu'est-ce qu'ils mettent
alors voilà. Eh bien, j'ai vu dans plusieurs éditions ce texte-là. C'est quand même audacieux, parce que, alors, ils s'en sortent en disant que c'est ça qui permet de comprendre un jugement dernier, par exemple. Hein. Michel-Ange, je ne sais pas quoi, ou les tympans, hein. Le tympan de Conques, le tympan de Vézelay, voilà. Le tympan de Vézelay, c'est plutôt une Pentecôte, mais le tympan de Conques, c'est clairement la gauche et la droite.
Elle est damnée d'un côté.
Voilà, oui. C'est un texte qui est considéré quand même aujourd'hui faisant partie du patrimoine universel et qu'un honnête homme doit connaître. Oui, c'était pas gagné il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, on mettait
Oh, mais c'est vache de mettre ça, alors qu'effectivement, ça sonne comme menaçant, comme faisant la leçon.
Ah, bah, bien sûr.
Donc, si on n'en fait pas une lecture spirituelle, ce qui, quand même, c'est pas forcément.
Oui.
C'est tellement recouvert, justement, de toute cette interprétation proposée par la cathédrale pour nous faire la leçon, finalement. Parce que la menace, la carotte et le bâton est une pédagogie efficace. Donc ça a tellement été utilisé comme ça que c'est surdéterminé dans l'interprétation. Alors qu'à mon avis, à l'époque, ce n'était pas ça. Mais enfin, bref.
Je te suggère de prendre rendez-vous avec le cabinet.
Ils auraient pu mettre à la place, je ne sais pas, le bon samaritain. Ils auraient pu mettre la brebis perdue. Ils auraient pu mettre l'amour des ennemis. Ils auraient pu mettre les béatitudes.
Oui, mais si on nommait les chèvres et les biquettes, enfin les brebis, il y a quand même, j'avais soif, tu m'as donné. Je pense que les gens ont suffisamment de santé spirituelle pour comprendre quand même ce que ça veut dire.
J'espère.
Ouais, c'est ce que je veux dire.
Mais c'est-à-dire que ce qu'il est. Oui, je ne suis pas complètement sûr que ça soit pétri de bonne intention d'avoir choisi un texte comme celui-là pour le seul texte qui mette. À connaître, je veux dire, à des gens qui ne connaissent rien d'autre de l'Évangile.
Ils mettent aussi soit le bon samaritain, soit l'enfant prodigue.
Ah ben quand même, c'est mieux.
Parce qu'ils sont contents, ils peuvent mettre un Rembrandt en face.
Avec les deux mains, la main de femme,
voilà.
Et la main d'homme.
Oui,
c'est pas bête.
Ouais. Ah oui, j'avais jamais vu. Les deux mains sur l'enfant prodigue.
Oui, il y a une main de femme et une main d'homme dans les deux mains.
On a dû me raconter ça, mais donc ce serait l'amour maternel et...
C'est-à-dire, voilà, c'est Dieu qui est à la fois le père et mère, tendresse et tendresse et force.
Et force, oui.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est la confession de foi de base du chemin Israël. Dieu est à la fois Yahvé, donc Dieu de tendresse et de pardon, et puis Elohim, qui est le Dieu un peu macho.
Très bien.
Voilà. Donc, on a peut-être fait à peu près le tour de ces textes. À moins que vous ayez encore des remarques et des questions.
Je pensais au Golgotha en même temps, n'est-ce pas, pendant que...
Bah oui.
Alors, qui est le Golgotha là-dedans?
Vous voulez dire la mort de Jésus?
Oui, oui.
Ben, c'est manifestation de l'amour. Hein. Et donc, on voit bien, à mon avis, dans ce geste, c'est ce que dit Paul.
Ça n'est pas dit dans les textes.
Mais c'est intéressant parce qu'il dit j'ai soif, vous savez.
Ah, il dit j'ai soif.
Bon, et il est nu. Et il est malade d'une certaine manière.
Oui.
Enfin, d'une certaine manière, il devient. Le frère, il devient le petit, parce que même quand il dit j'ai soif, bon, on lui tend quelque chose qui...
Ensuite, il est l'agneau de Dieu offert pour le péché du monde, si vous voulez, pour un. Donc, l'agneau de Dieu, c'est ce qui est donné à manger pour qu'on ait la force de se mettre en route, d'être libéré de l'esclavage. Et donc, dans un sens, voilà, ce qui vient dans notre prison pour nous donner à manger... C'est Dieu qu'envoie le Christ pour que dans notre prison du péché et de la mort, de l'égoïsme, de la peur de Dieu peut-être, on soit nourri par le Christ et qu'on ait la force de se mettre en route pour aller vers la vie. Donc oui, on peut reconnaître de toute façon des choses, à mon avis, oui, de la croix là-dedans. Oui.
Parce que la croix est souvent vue aussi comme jugement, hein, crisis, comme on dit. Vous savez, le mot crise veut dire en grec, c'est le jugement. C'est-à-dire ce qui vient en nous pour démasquer les zones qui nous forcent à nous positionner d'une certaine manière. Il y a un jugement. Et là, c'est un peu un jugement aussi. Bon, alors après, c'est une mise en crise de nos représentations religieuses, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Alors après, que ça se manifeste sur le tympan de conque, qui est quand même très beau.
Magnifique.
Quand j'étais étudiant, je l'ai souvent expliqué le soir avec une baguette.
Et puis conque, c'est un lieu c'est tout un lieu à fait magique.
Extraordinaire.
Ouais. Mais c'est quoi, c'est peut-être C'est pas Narbonne, il y a une sorte de cathédrale qui ressemble à un château fort un peu. Non, c'est Narbonne.
C'est Albi.
C'est Albi, Albi. Et les représentations dedans, les damnés, c'est assez rigolo parce que bon, les menteurs, ils sont pendus par un crochet de boucher par la langue. Donc il y a tous les châtiments comme ça pour tous les péchés, c'est péché assez bien représenté. Le péché de bouche, on est empalé par la bouche. C'est vrai que c'est assez sympathique.
Ouais. À Moissac, il me semble qu'à Moissac, il y a un tympan.
Ça donne envie d'être pêcheur. Voilà. Sauf que les bienheureux, hein, là, la brebis, elle a l'air de rigoler à côté. Parce que souvent, les justes, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils sont très sages, ils avancent en rond. Ça donne pas très envie. Hein.
C'est des enfants de cœur.
Pêcher, c'est plus drôle, c'est ça.
Bah, ça n'a pas l'air rigolo non plus, mais je trouve que voilà, il n'y a aucun des deux côtés qui me branche tellement, à vrai dire. Alors que l'ange de la cathédrale de Reims,
oui,
qui sourit, ça donne plus envie d'aller au ciel, quoi. Je comprends.
Et le beau Dieu d'Amiens.
Surtout qu'on voit parfois des catégories aussi, on voit les prêtres dans le.
Ah oui, toujours, surtout eux.
Ah oui, qui sont du mauvais côté ou qui sont du bon côté?
Ah bah, toujours. Ah bon. Comme dans les danses macabres.
Alors sinon Jésus, là, il le représente en bon berger, mais vous voyez, ils le mettent, il a quel âge, bon, il faudrait voir l'image de plus près, mais il a quoi, 15, 17 ans. Et donc, ce figure du berger, c'est aussi la figure d'une sorte de... C'est un type même d'humain en pleine forme, vous voyez, dans la force de sa jeunesse.
Hein. Jésus est un berbe jusqu'au 5e siècle. Hein. On le représente barbu à partir du 5e siècle. C'est intéressant quand même, 5 siècles c'est long. Hein. C'est la réforme, tu vois, c'est 5 siècles.
C'est vrai. Et jamais on compte Jésus en croix avant la fin avant la fin du 4e siècle en fait. Non. 9 fois sur 10, il est représenté en berger. Et à mon avis, c'est ça qui est pour les premiers chrétiens, en tout cas les 4 premiers siècles pratiquement. Hein. C'est ça qui les a bouleversés et qui est pour eux le cœur de l'évangile. C'est vraiment la grâce, la compassion, le soin de chacun. Mais finalement, ce qui est exprimé ici comme juste, c'est une figure du Christ, de toute façon, qui vient nous sauver. Alors sinon, dans ce texte, ils insistent beaucoup sur le moment. Hein. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et puis l'autre dit, quand nous est-il arrivé? Et donc c'est vraiment le moment, et je crois qu'il y a une sorte d'urgence du kairos, en disant, c'est aujourd'hui qu'est ce temps, et du jugement, et de... Comme si finalement ce jugement, c'était presque... la décision que nous allons prendre nous-mêmes, finalement.
Oui, oui, oui.
Tu vois?
Ce qu'on n'a pas dans les textes hindous, par exemple, à part la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est quand même... C'est quand il est sur son char et que Vishnu, hein, Krishna, rejoint le prince, le guerrier, c'est juste avant le choc de la bataille. Donc c'est le moment où on n'est quand même pas très serein. Et où tout se joue pour le bouddhiste. Mais c'est le bouddhisme tardif, déjà, la Bhagavad Gita, c'est un peu leur évangile. Mais autrement, dans la tradition védique, il n'y a pas tellement ce côté de cette mise en crise, hein, cette importance du temps.
Du temps présent, de l'instant. L'instant pile poil, en fait.
Je voulais revenir sur un tout autre sujet, enfin, qui est un peu éloigné des textes, mais qui est très proche de l'oratorium sur la fraternité d'hier, pour en tous les cas penser que l'oratorio œcuménique est tout à fait accessible des communautés chrétiennes. C'est-à-dire que autant la messe œcuménique reste un acte prophétique
rare
et qui annonce, autant l'oratorio œcuménique, on sent d'ailleurs l'oratorio d'hier était déjà très empreint de culture protestante.
Il m'a chanté un choral.
Et qu'on sent que c'est quelque chose qui est accessible aux communautés chrétiennes plus largement qu'à Saint-Eustache. Donc, je pense que même dans le 15e, on pourrait avoir ce type de,
De rencontre.
De rencontre, de temps de fraternité, alors que la messe, c'est encore. Les mentalités ne sont pas encore prêtes.
Bah déjà, en disant le mot messe, tu attestes que les mentalités ne sont pas toutes.
La scène,
la communion.
La communion, voilà.
Oui.
Même notre vocabulaire manque. Donc, tandis que l'oratorio, ça me paraît être. Une proposition.
Bien sûr. Oui, qui rejoint, c'est la lecture spirituelle, c'était ça, des temps de lecture publique, des séances de lecture publique, où on peut mélanger texte biblique et texte.
De fait, il y a la parole, mais il y a aussi le mouvement.
Hein. Oui.
Les musiciens se déplaçaient en fonction de. Des temps et
ouais.
Ça inclut un certain mouvement
l'oratorio
et je crois que c'est très porteur de sens.
Ah, c'est sympa.
Et on a commencé par Agrippa d'Aubigné justement. Sur,
ah ouais.
Voilà. Il y avait beaucoup de. J'avais mis beaucoup de. J'espère que tes oreilles ont tâté.
Oui, mais voilà. J'aurais voulu y être, mais j'avais une réunion hier malheureusement. Mais il m'avait gentiment invité. Donc les oratoriens m'avaient invité très gentiment et j'aurais été vraiment avec grande joie, c'est vrai, à cet événement.
Mais on refera avant Noël, je pense. Voilà.
Merci beaucoup et donc bon été à
bon
vous
été.
Toutes et vous tous.